J'ai vu qu'il commençait ciné-ado.
Oui.
C'est chouette.
Oui.
T'as toujours des surprises dans cette édition, c'est toujours un plaisir.
Je sais pas si on s'entend.
C'est là, oui.
Moi j'ai bon là.
Oui, oui.
Et toi, Muriel?
Oui, c'est bon, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vous ai.
We are going to see.
Let's go see.
So bonjour, vous avez toutes et tous reconnu le générique de votre émission cinéma favorite, hein, Zoom & Co. Un générique créé par Clara, qui aujourd'hui est à la technique de l'émission.
Coucou.
Salut. Une émission animée par Muriel, notre directrice de notre cinéma.
Bonjour à tous.
Par Annick, la présidente du club ciné de la MJC, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Par Pierre-Emmanuel d'Aveyron Cinéma.
Bonjour à tous.
Et par Didier, votre serviteur de Radio Larzac. Une émission toujours divisée entre deux parties. Une première qui devra aujourd'hui nous permettre de répondre à la question que tout le monde se pose. Peut-on être cinéphile et rire au cinéma? Et une seconde partie consacrée à Cannes et aux programmations remarquables de la prochaine quinzaine. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Hein. Je crois que chacun ou chacune d'entre vous est venu avec un film illustrant que la cinéphilie d'un réalisateur peut nous faire rire aux éclats. Qui veut commencer et commenter son choix? Je sens que Pierre-Emmanuel en a vraiment envie.
Ça se voit à ce point-là.
Ah ouais, vraiment. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais il trépigne.
Une première chose, je crois, c'est que il y a des cinéastes de comédie, des cinéastes comiques, qui ne déclenchent pas forcément le rire, l'hilarité. Voilà. Un cinéaste comme Jacques Tati, par exemple, c'est un humour constant tout au long de ses films, mais ce n'est pas un cinéaste aux films desquels on va rire aux éclats. C'est un autre humour, d'un autre registre. On peut dire la même chose de certaines comédies italiennes également. Des cinéastes où l'humour est plus grinçant, par exemple, et qui ne sont pas donc des films qui vont déclencher le rire constant, le fou rire. Voilà. Après, je crois que le rire au cinéma, il est aussi déclenché par le moment partagé. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que c'est un souvenir assez fort pour moi. C'est un souvenir qui remonte à un peu trop longtemps, 91, je crois. Dans un amphithéâtre à Paris, à l'université de Jussieu. Et il y a un critique, qui était un critique important à l'époque et malheureusement disparu aujourd'hui, qui s'appelait Jean Douchet, qui donnait des cours magistraux, comme il savait le faire, avec beaucoup de brio. Et il avait choisi ce soir-là le premier film de Nanni Moretti, « Je suis un autarcique ». Un ouais. Film que Moretti avait réalisé en 76. Alors, la prouesse pour l'époque, c'est qu'il l'avait réalisé en Super 8, puisqu'il était un cinéaste totalement débutant, avec des amis, et que le film a eu un tel succès qu'il a été gonflé pour pouvoir être projeté. Il a été gonflé en 16, je crois, pour pouvoir être projeté en salle. Et c'est un film où on trouve déjà le personnage des films de Moretti, le personnage qu'il s'est construit, qui s'appelle Michele Apicella, où il aborde avec une autodérision incroyable les désillusions de sa génération par rapport aux utopies politiques, puisqu'on est en plein milieu des années 70, au moment où ça décante, voire où ça déchante.
Oui.
Mais il le fait avec un humour assez sidérant, qui est l'humour qu'on lui connaît, personnage très nerveux. Il y a des scènes où il emmène toute une troupe pour faire du théâtre expérimental avec le côté un peu expérimental que ça peut avoir. À la fin, le metteur en scène propose un débat, tout le public s'enfuit en courant. Il y a des moments très très drôles. Et en fait, mon souvenir, c'est un amphithéâtre entier. Et on était à Jussieu, donc il y avait du monde. Un amphithéâtre entier qui était hilar. Et ça, c'est particulièrement communicatif. À tel point que c'est un de mes grands souvenirs de fou rire au cinéma.
C'est vrai que rire tous ensemble au cinéma, c'est une certaine qualité de rire qu'on ne retrouve pas chez soi à la maison. D'ailleurs, des fois, a posteriori, on ne rit pas autant si on revoit le film entre nos quatre murs.
Ah oui, quand on est tout seul, oui, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais alors, tu as d'autres exemples ? Enfin, je ne veux pas
dans les
te
films,
mettre en difficulté.
Ça ne me met pas... Non, dans les films qui ont pu me donner des fous rires, il y a une parodie de film d'espionnage de Claude Chabrol qui s'appelle « Marie Chantal contre le docteur K ». Alors là, c'est notamment... Bon, le film est très drôle, mais c'est dû notamment à la prestation d'un second rôle. Personnage particulièrement amusant. Et puis, plus récemment, Au poste de Quentin Dupieux, qui est un film pour lequel, effectivement, j'ai eu la même sensation de fou rire.
Mais avec presque, Quentin, on peut rire. Hein. Ouais. Je pense que
il faisait partie
Muriel
de
va être d'accord.
Non, mais il faisait partie de ma liste aussi des cinéastes qui m'amusent et qui m'amusent beaucoup, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait.
Mais alors, le rire, il jaillit du fait qu'il pousse les personnages à l'extrême. Le sujet est drôle en soi et on a quelqu'un qui est incongru.
Bah, c'est l'absurde.
Non, c'est l'absurde.
Je crois que c'est l'absurde, peut-être, qui me fait
c'est
rire.
C'est très difficile à dire parce que Mandibule de Dupieux ou d'autres films... me font sourire, mais je ne pas forcément rire aux éclats. Pourquoi avec Au poste ça a fonctionné ? J'ai l'impression que c'est une question de tonalité, d'ambiance, de musicalité. Peut-être aussi lié au personnage, mais pas au personnage en tant que tel incarné par le comédien, mais les personnages à l'intérieur du film, c'est-à-dire tels qu'ils influent sur le climat du film en fait. Voilà. Après, on peut rire à la prestation d'un comédien parce qu'elle est brillante ou particulièrement drôle, mais davantage dans le climat du film, quelque chose qui va maintenir le rire presque en permanence.
Mais on est en train de dire que c'est un art extrêmement difficile que de faire rire.
Ah, que de faire rire, oui. Moi, je trouve.
Bien sûr.
Donc, ça n'en fait du coup pas un art mineur du cinéma, et que normalement, on devrait y trouver de grands metteurs en scène et des thématiques, comment dire, sérieuses, au fond.
Hein.
Oui. C'est. Moi, j'ai trouvé vraiment cette idée de petite chronique là très intéressante et terriblement difficile, en fait. Parce que parce qu'on parlait de cinéphilie, alors on parlait peut-être de grands réalisateurs, de grands films cultes, etc. Qu'est-ce que la cinéphilie ? Ou alors voilà, qu'est-ce qu'un film de cinéphile ? À partir de quoi on peut dire aussi que c'est un film de cinéphile ? Et c'est une question. Ma première partie de carrière, j'étais libraire et il m'était donc donné de conseiller des livres et ce challenge était le plus difficile. Conseiller un livre humoristique.
Ah oui.
Parce que l'humour est vraiment très, très différent pour tous.
Il a du mal à être universel, en fait.
Eh bien, quelque part, je trouve, sur certaines choses, oui.
Mais je crois qu'on en discutait un petit peu. Il y a des films qui, à leur sortie, bien que drôles, n'étaient absolument pas dans la case, je veux dire, réservée aux réalisateurs qui seraient des cinéphiles ou à des spectateurs qui en seraient aussi, et qui 20 ans ou 30 ans après font partie de notre patrimoine, nous. Et la qualité, d'ailleurs même de réalisation, elle est aussi éventuellement reconnue. Donc en fait, c'est un concept mouvant, et de plus en plus, on rit beaucoup de films qui sont qualifiés de... de patrimoniaux. Alors, est-ce que patrimonial, ça veut dire que ça relève de la qualité qui ferait que c'est un film enseigné?
Pas seulement. C'est qu'il y a eu des évolutions dans la cinéphilie. Et aujourd'hui, la cinéphilie, elle est quand même très étendue, notamment, par exemple, à ce qu'on a pu appeler la série Z à une époque. Mmh. Et de la même façon, elle s'est étendue à un cinéma français. Tu parlais de patrimoine. Moi, je dirais que c'est le patrimoine vernaculaire du cinéma français. C'est-à-dire que c'est un petit patrimoine auquel les cinéphiles d'aujourd'hui sont attachés, tout simplement parce que ce sont des films qu'ils ont découverts à la télévision lorsqu'ils étaient enfants, il y a une vingtaine d'années ou plus. Un exemple emblématique, ce sont les films de Louis de Funès. Louis de Funès a été considéré, reconsidéré, à travers une exposition à la Cinémathèque il y a quelques années, à travers aussi des analyses de critiques qui sont clairement identifiées comme des cinéphiles. La seule différence par rapport au metteur en scène de ces films, que ce soit Jean Giraud, André Hunebel et autres réalisateurs de l'époque, c'est que je pense que dans la perspective de ces critiques, l'auteur, c'est l'acteur. C'est-à-dire que, en gros, c'est Louis de Funès qui fait le film, et c'est lui qui est... c'est son jeu à lui.
Oui.
Son jeu, alors est-ce qu'il est issu de la Commedia dell'arte ou autre? Je ne saurais pas dire, mais en tout cas, c'est son jeu et la tradition dans laquelle s'inscrit son jeu. Et la manière dont il guide le film et sans doute la mise en scène par son jeu, c'est cela qui est au cœur de la reconsidération. D'accord. De ces films.
Et des fois aussi, j'y pensais là, des fois c'est peut-être aussi quand on a un film qui est l'exemplarité atteinte sur un type de film, de situation. Et là je pensais à The Party de Black Edward. Black Edward, c'est peut-être pas le meilleur réalisateur du monde, mais en tout cas quand on voit ce film, alors j'ai hésité à le choisir, je ne l'ai pas choisi. Mais c'est éclat de rire c'est éclat de rire. Alors peut-être que tout le monde ne rit pas, je ne sais pas. Voilà.
En tout cas, ça s'inscrit. Alors, c'est un bon réalisateur, hein, Black Edward, hein, clairement. Merci. C'est un bon cinéaste. Et ça s'inscrit aussi dans ce comique qu'on trouve aussi chez Jerry Lewis, notamment, oui. De catastrophes progressives, en fait,
d'accumulation.
Oui,
qui va crescendo. Voilà. Tu as d'autres, Muriel?
Alors, je me suis rendu compte, donc, comme je vous le disais en préparant l'émission, qu'effectivement, moi, je devais avoir un humour complètement suranné et désuet, parce que effectivement, moi, ce qui me fait rire, c'est Les Vacances de Monsieur Hulot. Oui, de Jacques Tati.
C'est très bien.
Ah ben moi aussi, ça me fait...
Voilà, mais celui-là me fait rire.
Le jeu de cartes avec les sièges qui pivotent.
Et la gare où tout le monde, où on ne comprend rien. Vous savez, quand c'est le début du film, où il y a l'annonce à la gare où on ne comprend rien et on voit les passagers qui passent de quai en quai parce qu'ils ne comprennent rien. Ouais, bon, me fait rire.
Là,
c'est
du comique.
Voilà. Alors, Louis de Funès me fait rire. Voilà, je confesse que Louis de Funès me fait vraiment rire. J'adore ses mimiques. Je peux revoir La Grande Vadrouille un nombre incalculable de fois. Ça me fait toujours rire. Donc c'est pour ça, certains l'aiment chaud, me fait rire aussi. Voilà, donc j'en suis venue à la conclusion que vraiment, vraiment, j'avais vraiment un humour assez ancien. Après, c'est ce que disait Pierre-Emmanuel. Il y a des films... Là, je parle de films qui m'ont vraiment fait... rire aux éclats, voilà, rire. Le rire qui vient, qui n'est pas réfléchi, qui ne vient pas du cerveau. Le rire, voilà, qui vient du cœur.
L'inconscient.
Qui vient de l'estomac.
Le surmoi qui,
ah, c'est ça,
qui est effacé.
Des choses... peut-être alors plus récents.
Oui, parce que justement, plus récent. Est-ce qu'il y a des films récents qui font rire?
Le plus récent que j'ai, où j'ai beaucoup ri, alors ça c'est aussi une expérience de... Enfin, plus récent, mon Dieu, 98. C'est récent. Expérience comme Pierre-Emmanuel, j'étais dans une salle pleine et tout le monde a ri, riait tellement qu'on n'écoutait plus, c'était Marie à tout prix. Voilà.
Ah bah c'est très drôle.
Voilà. Marie a tout pris et tout le monde riait. Et ben je l'ai revu après et t'avoue que ça m'a moins fait rire. Donc c'était vraiment aussi le fait d'être de partager ce moment-là.
Voilà. Alors moi je vous ai trouvé un film plus récent. Mais vous allez voir à la radio on peut pas voir le regard de mes condisciples là. Mais le film il s'appelle Coupé. Alors, vous voyez, déjà, on est en plein dans un tournage. Hein, et c'est un film de Michel Hazanavicius. Vous ne l'avez peut-être pas vu.
Et je crois que non.
Eh oui, je peux que vous... Alors, c'est un film qui est vraiment désopilant. Mais c'est vraiment un hommage au cinéma parce qu'il y a un plan séquence qui dure 15 minutes. Et on croit qu'on est dans le film. Mais le plan séquence, il est nul parce qu'il met en exergue toutes les difficultés de réalisation du plan séquence. Alors, vous avez le plan séquence, première partie du film, et après, vous avez le tournage du film. Donc, vous voyez, c'est un film qui est vraiment... On rigole tout le temps. Et puis, c'est un film sur le cinéma, en hommage à ceux qui le tournent, en hommage aux acteurs. Et vraiment, c'est un film extraordinaire. Et puis, bon, il est... Pourquoi, de mon point de vue, c'est de la cinéphilie ? C'est parce qu'il parle que de la difficulté de faire un plan séquence. Et après avoir vu ce film, quand vous voyez un plan séquence, à chaque fois, vous y pensez. Parce qu'ils ont dû le tourner 15 ou 20 fois, avec des difficultés absolument insensées. Voilà, alors si je peux vous donner, si j'ai pu vous donner envie de le voir, moi je...
Puis Hazanavicius, alors il sait faire Hazanavicius, parce que c'est vrai, j'avais noté aussi, mine de rien, plus récent, OSS 117, le Caire nid d'espions, là, celui d'Hazanavicius. Oui, c'était drôle quand même.
C'est vrai, c'est drôle. On sent moins ses qualités de cinéaste, alors que je pense, bon, alors il traite des sujets... Enfin, pas toujours léger, d'ailleurs.
Hein. Non, non.
Il a même fait un dessin animé...
pas léger
enfin,
du tout.
Pas léger du tout. Voilà, au travers de ça, il peut nous faire aimer le cinéma, il peut nous faire changer de regard sur le film. Bon, là, je vois qu'on nous fait signe, on nous attend au Festival de Cannes pour le...
Formidable.
Donc, il faut qu'on y aille. Hein. Vous voyez, on est applaudis.
Get back to where you are.
Voilà, c'est terminé. Alors ça, c'est Clara qui avait absolument insisté pour qu'on passe cette chanson. On a eu un petit débat pour savoir si c'est bon ou pas bon. Mais alors, pourquoi on a passé Get Back ? Bah, c'est parce que Peter Jackson, à l'occasion de cette première soirée, a reçu une palme d'or d'honneur.
Tout à fait.
Bon, vous vous rappelez tout ce qu'il a pu faire autour du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est sans doute mérité. Hein, c'est une œuvre, on peut dire, je crois. Et alors, c'est vrai que ce succès a effacé tous les autres, en fait. Mais il avait fait une série documentaire où il avait remonté une série de films d'époque tournés au moment où les Beatles ont enregistré Get Back. Hein. Ils étaient sur le point de se séparer, d'ailleurs.
En fait, il a remonté les rushs du film Let It Be, qui a été filmé pendant l'enregistrement de l'album Let It Be, qui n'est pas le dernier album des Beatles. Hein. Le dernier album, c'est Abbey Road,
donc,
pour terminer en beauté.
Et d'ailleurs, il nous disait au revoir à la fin. Voilà. This is the end, je me rappelle.
Exactement.
Très bien des dernières paroles du disque. Hein. C'est le premier disque que j'ai acheté.
Alors, d'accord.
On s'en souvient.
Donc on se rappelle des dernières.
Non, mais c'est
celui-là.
Surtout celui-là.
Celui-là est vraiment magnifique. Ouais. Enfin, voilà. Hein. On était à Cannes. Je trouvais que c'était une cérémonie d'ouverture qui se tenait.
Oui, voilà. Oui. Hein, surtout avec une maîtresse de cérémonie qui a été magnifique.
Exceptionnelle. Ouais. Hein. Bon, tout à fait. Bon, voilà.
On est d'accord.
Ah, on est d'accord.
Elle était magnifique.
Alors à Cannes, hein, je dois dire que nous y sommes à Millau, hein, grâce au cinéma de Millau.
Mais tout à fait, mais parce que les films, contrairement à l'année dernière où il avait fallu attendre pour voir arriver les films de Cannes, et ben là, ils sortent assez rapidement.
Bah, presque le même jour.
Petit à petit. Ah oui, presque le même jour.
La Vénus électrique, le lendemain, on a eu une séance spéciale.
Exactement.
Hein, bon, un joli film hein, d'ailleurs, hein, de Pierre Salvadori.
Je pense que c'est un film, moi je vois les spectateurs sortir et c'est un film qui fait du bien, qui n'est pas un sujet politique, qui n'est pas, voilà, c'est un sujet un peu d'amour.
C'est une vraie comédie.
C'est une comédie.
Bon, ouais, puis on va assez loin, quoi,
l'électricité,
avec deux actrices... superbe.
Incroyable, oui, tout à fait.
Voilà un bon cinéaste de comédie, Pierre Salvadori.
Exactement.
Qui ne déclenche pas forcément une réaction d'hilarité, mais il y a un humour prégnant, permanent dans ses films. Et ils sont très bien faits.
Ah, ouais. Il a un acteur fétiche, hein, Pio Marmaille, hein, qui l'accompagne. Oui. Et puis là, on avait Anaïs de Moustier, bon... C'est plus qu'une valeur sûre. Hein.
Ouais,
vraiment
c'est très bien.
En train de devenir une vedette française, mais de qualité. Et puis moi, j'ai découvert Vimala à Pons. Et je l'ai trouvé fantastique.
Oui, on l'avait vu dans le Comte de Monte Cristo, je crois.
Dans les films d'Antonin Perediaco.
Oui.
La fille du 14 juillet.
Puis l'année dernière, dans un film sur...
titre avec Vincent Macaigne.
Oui. Enfin, en tout cas, elle crève l'écran, là, dans ce... Je trouve, dans ce film. Elle sait jouer avec beaucoup de conviction le rôle d'une véritable amoureuse, qui n'est pas évident aujourd'hui dans le cinéma français.
Mais tout à fait, c'est
pour ça
qu'elle
a du tempérament.
C'est ça, je pense que c'est un bon film pour passer un bon moment. Ouais.
Voilà, je crois que tu vas continuer à le programmer.
Complètement.
Et là, il ne faut pas hésiter à y aller. Hein.
Oui. N'hésitez pas.
Je trouve, hein, franchement. Et puis, il y avait un deuxième film aussi, Histoire parallèle.
Il y a Histoire parallèle également. Voilà, sur un peu le côté voyeur. C'est amusant parce que c'est comme le cinéma a un côté voyeur.
C'est pas fenêtre sur cour. Hein,
Il y a quelque chose comme
Avec un metteur en scène iranien. Qui vient tourner en France.
Exactement, qui vient tourner en France. Un casting assez incroyable.
Asghar Farhadi, oui, le nom du metteur en scène. Alors, Virginie Efira, Isabelle Huppert, vedette féminine. Hein. Et puis Vincent Cassel, Pierre Minet, Adam Bessa, moi je ne connaissais pas le.
Non, moi non plus, ce jeune.
Bon, voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit au palmarès, le film. Mais on va voir, on peut ouvrir les paris. Hein. Bon, pour dire qu'il y a une belle sélection.
Il y a une très belle sélection, on verra.
J'ai une grande attente, c'est l'Inconnu d'Arthur Harari qui a été projeté hier.
Ah oui.
Et Arthur Harari, pour avoir vu ses deux premiers films, enfin ses deux premiers longs métrages,
tu peux me rappeler vraiment... les noms de.
Alors, Diamant Noir.
Ah oui, je l'ai vu, il est magnifique.
Qui est un film remarquable.
Ah oui.
Et très étonnant de la part d'un jeune cinéaste français.
Oui.
Et le deuxième, là aussi, audacieux pour un cinéaste français, un film qui s'appelle Onoda, qui est consacré aux soldats japonais qui a poursuivi Seconde Guerre mondiale
qui est resté
pendant une trentaine d'années sur une île. Onoda dit lui dans la jungle.
Mais il écrit aussi des scénarios, non?
C'est Anatomie d'une chute aussi.
Voilà, il a coécrit avec sa compagne Justine Triette le scénario d'Anatomie d'une chute.
Des scénarios de bande dessinée aussi, je crois, remarquables. Ouais, enfin, ça, nous, c'est pas notre sujet.
Alors, L'Inconnu est adapté d'une bande dessinée de Luca Harari, qui est son frère.
Son frère, c'est ça.
Voilà.
Et de temps en temps, ils travaillent ensemble et de temps en temps, séparément. Mais là, je peux.
Et le sujet est étonnant, d'ailleurs. Je me demande ce qu'il en aura fait. Parce que...
ouais, mais je trouve que de tous les cinéastes français apparus ces dernières années, c'est
clairement un des plus intéressants.
Mais Diamant Noir, je l'ai découvert très récemment, je l'avais raté. Mais c'est un film remarquable.
C'est pareil, ça a été une surprise pour moi de le découvrir.
Ah ouais. Bon, on a d'autres surprises, bonnes surprises qui nous attendent.
Moi, j'avoue que j'attends le film d'Agnès Jaoui. L'objet du délit, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup Agnès Jaoui. C'est le premier film qu'elle écrit toute seule depuis la mort de Jean-Pierre Bacri. Ouais. Et voilà, c'est à la fois c'est une comédie, mais on sait avec Agnès Jaoui, c'est à la fois du rire, un peu grinçant, un peu d'émotion, on va dire MeToo dans le milieu de l'opéra.
Ouais, j'ai vu la présentation. Ouais. Et alors en plus, bon, c'est encore une façon, c'est attirant, quoi, parce que elle parle de son métier, elle en fait un film. Enfin,
ouais,
je pense que
ça a l'air.
Des conflits de génération.
Donc ça, c'est pas mal.
Un peu subtil.
Toujours subtil, hein, avec Agnès Jaoui, moi c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, donc voilà, j'attends. Et nous avons aussi, alors le film est hors compétition à Cannes, et nous avons aussi L'Abandon, donc sur l'histoire tragique de Samuel Paty, voilà. Ouais. Donc ça,
je crois que c'est un film qui est intéressant, important de voir. D'aller regarder, je ne sais pas, le metteur en scène, moi je ne le connais pas.
Moi non plus.
Bon, je ne suis pas... il n'est pas forcément connu, mais là par contre, le thème forcément est vraiment important. Peut-être que les enseignants ont besoin d'être soutenus et d'avoir le soutien que le film peut leur apporter, la compréhension des...
Oui, c'est ce que je me suis dit aussi.
Des situations.
Des situations, de comment ça se déroule.
Je crois savoir qu'il a été critiqué.
C'est ça, c'est le film qui va diviser,
voilà,
forcément.
Donc, c'est peut-être triste parce que ce n'est pas vraiment l'objectif. J'ai l'impression que le metteur en scène va devoir expliquer à certains d'entre nous le tenant et les aboutissants de sa façon de le mettre en scène. Bon. Mais en tout cas, j'espère qu'il aura beaucoup de spectateurs.
Je pense. Moi, j'ai déjà pas mal de gens qui m'écrivent pour savoir quand est-ce qu'il va passer, donc je pense. Et j'attirerai juste votre attention sur un film que j'ai trouvé vraiment très intéressant, un film espagnol qui s'appelle Sorda, de Eva Libertad, et qui nous plonge un peu dans l'univers d'une personne sourde. Voilà, d'une personne sourde. Qui est en couple, qui vit très heureuse avec quelqu'un qui est entendant, qui a appris la langue des signes. Ils sont très amoureux, tout va très bien, et ils décident d'avoir un enfant. Et lors de cette maternité, et surtout quand l'enfant naît, on voit comment ça se passe pour cette femme et sa réflexion, elle aurait presque envie que ça, son bébé soit sourd. Voilà. Parce que le bébé n'est pas sourd. Et c'est cette comment communiquer. Et la metteur en scène nous plonge totalement. Alors le film est en sous-titré au cap. C'est-à-dire qu'on a les, comme pour les sourds, voilà, avec les descriptions. Et par moments, elle, y a pas de son. En fait, on nous plonge dans vraiment, c'est un film très sensoriel. C'est un très très joli film, vraiment. Je vous encourage à venir le voir, je trouve ça très intéressant.
T'aurais pu en faire un film débat.
Ah, si, complètement.
Si ça avait été...
Complètement. Et ben, il avait été choisi saison. D'ailleurs pour film surprise. C'était un des films surprise, Sorda.
Ouais.
Voilà. Et j'en profite pour vous dire que le 2 juin, c'est le dernier film surprise de la saison. Et je vous rends... Le film est magnifique.
Ne dis pas qu'il va faire rire. Non.
Et il y a quelques passages qui sont quand même assez amusants. Bon. Mais pas que. Non. Pas un film comique du tout. Oh. Mais il y a des. Voilà. Mais c'est un super film et je vous encourage vraiment. C'est des bons moments, ces découvertes de films surprises.
Non, bah c'est super. On n'a pas un film d'un jumelage
Alors, un film espagnol, Romeria.
D'accord.
Voilà, qui est ouais, intéressant aussi.
Là aussi, c'est la fin de la saison, peut-être.
Fin de la saison. Dernier. Un très joli film sur l'adolescence qu'a choisi aussi l'école du Chalancagnan. Voilà. Et le film s'appelle... Alors, le film, il est sorti fin août. Il s'appelle L'épreuve du feu. Et c'est sur donc, les amours adolescents. Les amours adolescence avec le regard du groupe. Et vraiment, c'est un film passionnant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. Avec un débat après, ça peut être intéressant.
Bon, ben c'est parfait. Hein. Donc là, on va se donner rendez-vous pour notre prochaine émission où on va certainement pouvoir discuter du palmarès.
Voilà, on sera à Cannes.
Et puis de tout ce qui se passe à Cannes. Hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, là, la production cinématographique... enfin, la mainmise de certains sur la production est sur le point de poser des problèmes majeurs.
Tout à fait.
Hein? Bon, merci.
Merci à vous.
Pour ces discussions. Bon, et puis j'espère qu'on aura intéressé nos nombreux auditeurs. Merci à Clara.
Eh bien, avec grand plaisir. Merci aux auditeurs de toujours nous écouter.
Qui a pu écouter Théodora. Donc, je crois qu'après, la vie est bien faite. Hein.
Ouais, ça doit être ça, je pense.
Allez, au revoir.
Et au revoir. À bientôt.